Strip Sismique.
Oh non, encore une émission sur la bande dessinée.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et bienvenue dans Strip Sismique, une émission consacrée à la bande dessinée et aux fanzines, un dimanche par mois sur Radio Campus Paris. Ce soir, pour cette première émission confinée, nous avons le plaisir de recevoir Juliette Ben-Simon-Marquina pour nous parler de sa bande dessinée Paz e Polli, publiée par Les Rocam Marteau. En chronique, nous ferons un focus sur les éditions Même Pas Mal, qui, en occasion du confinement, mettent à disposition sur leur site leur nouvelle BD. Nous parlerons donc de Alma, de Tarmas, nous parlerons aussi des sabordages, des pluies acides, et nous terminerons avec les meilleurs dessinateurs de tous les temps, l'autobiographie de Charles Spiral. Mais commençons pour présenter l'album de Juliette Ben-Simon-Marquina. Julia, on t'écoute. Paz e Polli.
Paz e Polli est la dernière BD de Juliette Ben-Simon-Marquina qui met en scène deux ex-twerkeuses qui ont été amputées de leurs jambes et comptent bien se venger de leur sort. Sur fond de drogue et de bling-bling, il s'agit d'un récit de violence, de sexe et de vengeance de deux femmes badass, dont la poitrine opulente évoque les melons de la colère. Au même titre que les Revenge Movies, on peut parler ici d'un Revenge Comic, dont la narration n'a rien à envier à un Tarantino comme Boulevard de la Mort, et qui sont conclus avec un cinglant girl power. Pas besoin de twerk, pas besoin de validation masculine, nos deux héroïnes finissent en beauté et de façon beaucoup moins tragique que Thelma et Louise. Le récit, qui ne s'embarrasse pas de blabla, est servi par un dessin sans compromis, en noir et blanc, au trait chirurgical et tranché, qui rappelle les Freaks de Charles Burns, l'auteur de Black Hole. On passe à l'interview de l'autrice Juliette Ben-Simon-Marquina par Camilla Pizzichillo.
Alors, Juliette Ben-Simon-Marquina, vous êtes autrice des bandes dessinées. En 2015, les Rocam Marteau ont publié votre première bande dessinée, La Caïda y Coyota, qui s'inspire des mystérieuses disparitions des femmes au Mexique. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de Paz e Polli, votre deuxième bande dessinée, publiée toujours par les Rocam Marteau en juin 2019. Vous avez travaillé dans une grande brasserie parisienne, j'ai vu. Vous avez étudié aux Beaux-Arts, vécu aux États-Unis. Pourrez-vous revenir un peu pour nos auditrices et auditeurs sur votre parcours et nous raconter comment vous êtes arrivée à faire de la bande dessinée?
Oui, alors bon, moi c'est un peu... J'ai du mal en fait à se définir moi-même, mais j'étais aux États-Unis et j'ai commencé naturellement à faire des petits comics en bande dessinée que j'imprimais et que je déposais dans des librairies en dépôt, et voilà, c'est venu tout doucement. J'ai jamais étudié la bande dessinée parce qu'au Beaux-Arts je faisais de la vidéo, de la performance, de la peinture, donc c'est vraiment en autodidacte que je me suis lancée là-dedans, donc avec beaucoup de naïveté. Et voilà, et puis l'histoire de la Caïda et Coyota s'est imposée à moi à un moment donné, lors d'un voyage au Mexique justement. Tout s'est construit tout doucement, progressivement, et puis voilà.
Et comment vous êtes arrivée au Rocam Marteau? Pourquoi vous avez décidé de publier chez eux cette bande dessinée?
Alors, en fait, pareil, c'était un peu... Moi, je ne connaissais pas vraiment le monde de la bande dessinée. Mm-hmm. Parce que je n'étais pas issue de la... Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini La Caïda et Coyota. Je l'ai fini entièrement. J'espérais la publier, mais j'avais aucun contact dans ce milieu-là. Et j'ai une amie de Bordeaux qui est peintre et qui partageait des locaux avec les Rocam Marteau. Donc, en vrai, vraiment, je n'avais jamais entendu parler des Rocam Marteau. Pour dire à quel point je connaissais vraiment pas bien le milieu de la vie. Et elle m'a dit, si tu veux, quand je les croise en couloir, je leur demande un mail et puis tu envoies, quoi. Et voilà, j'ai eu de la chance.
Ah, c'est super. Et je voudrais revenir sur vos références, votre esthétique. Donc, en voyant et lisant vos bandes dessinées, à part les films de Robert Rodriguez, Russ Meyer, Tarantino, l'univers des frères Hernandez, des Cramp ou encore des Charles Barthes, quelles sont vos références?
Vous les avez un peu dites. Après, voilà, c'est des références des fois un peu inconscientes. Hein. Les frères Hernandez, j'ai découvert ça aux États-Unis, j'ai énormément aimé. Après, moi, j'ai grandi avec les BD de mon père. C'était plus Bretéché, Razor, Gottlieb, donc c'est pas vraiment cette esthétique-là. Non, je pense que vous les avez dites. Puis beaucoup de cinéma, j'aime beaucoup. Puis j'ai un peu du mal à me caler dans des références. D'ailleurs, toutes celles que vous avez citées, c'est surtout celles qu'on m'a collées un peu, mm-hmm. mais qui sont pour certaines vraies. Hein. J'aime beaucoup Trump, j'aime beaucoup les Fernandes. Mais voilà, j'en ai pas vraiment d'autres à citer comme ça. Moi, je viens plutôt en plus du milieu de l'art contemporain, donc non.
Et l'art contemporain, qu'est-ce que vous aimez bien ?
Qu'est-ce que j'aime bien en art contemporain ? Mm-hmm.
Est-ce qu'il y a des artistes qui vous fascinent ?
Oui. J'ai travaillé avec Thomas Hirschhorn. J'ai beaucoup aimé sa démarche artistique. C'est loin maintenant en plus. Hein. J'aime beaucoup Cindy Sherman. Là, vous me prenez un peu de cours, j'avoue que les noms ne viennent pas forcément en tête. Dans une heure, je me dirais « Merde, j'aurais dû dire ça ».
Et j'ai une question par rapport à vos dessins. J'ai remarqué que dans vos dessins, il y a toujours un certain degré de violence. Est-ce que vous aimez des bandes dessinées que, par exemple, où il y a un dessin qu'on pourrait définir un peu naïf, comme par exemple les dessins des Camille Jourdi, par exemple ? Camille Jourdi.
Je connais pas.
Oui, mais par exemple, les dessins naïfs, un peu naïfs, est-ce que vous les aimez bien ?
Ah oui, mais moi j'aime bien, enfin, j'ai pas de style de dessin particulier, je vais dire que des trucs hyper violents, bien sûr, il y a plein, dans tout style, ou dans toute esthétique, il y a des choses qui vont me plaire, d'autres pas, je suis pas fermée, en plus de pour être encore une fois assez honnête, je ne suis pas une grande lectrice de bande dessinée, moi. Hein, donc, non, c'est... Bien sûr, ouais, il y a des choses plus douces, des histoires plus calmes, plus douces, qui me touchent énormément. Moi, j'ai traité de ces sujets-là parce que le sujet de base de la Caïda était violent. Mm-hmm. Pas dépoli pour moi aussi. Il y avait des violences qui devaient être dites par rapport aux femmes et tout ça. Après, moi-même, j'évolue aussi. Hein, mes violences personnelles se calment aussi. Et justement, j'ai plutôt envie d'aller vers des choses plus douces maintenant. Je ne sais pas si j'en serais capable, mais...
Et à propos des pas épaulies, malgré leur handicap, elles semblent quand même obsédées par une forme de puissance. Comment vous avez construit ces deux personnages aussi singulier. Comment vous les avez imaginés ?
Je les ai imaginés. Une fois, j'ai fait un dessin de deux femmes sur deux femmes, deux pas épaulées en fait. Et de ce dessin, les personnages m'ont vraiment plu. Hein. Et d'ailleurs, c'est le dessin qui est à la fin de la bande dessinée où elles sont sur une banane. Mm-hmm. Dans la mer. Et donc, du coup, dans la banane climatique, et du coup, j'ai décidé d'inventer une histoire autour de ces personnages-là. Donc, comme ils avaient dessiné sans jambes, il a fallu que j'invente le pourquoi du comment de cette amputation. Et puis, l'histoire s'est construite au fur et à mesure. Moi, quand je pars de. C'était aussi un moment donné où j'étais assez intéressée par le twerk, toutes ces danses et tout. Donc voilà, il y avait des intérêts du moment qui sont venus se caler dans le scénario. Et puis les scénarios et aussi la personnalité des personnages se créent au fur et à mesure. Généralement, j'ai le début de l'histoire, j'ai à peu près où je vais arriver à la fin. Et au milieu, il se passe plein de choses aussi en fonction de moi, ce que je vis, en fonction de ce que je vois, en fonction de plein de choses qui font que l'histoire se construit vraiment progressivement. Je ne pars pas d'un scénario complètement ou d'un storyboard, je ne sais pas comment on dit en BD, mais complètement défini. Et ces personnages-là, par leur histoire, elles sont fortes et elles veulent s'en sortir. Et au début, elles sont un petit peu mal en point, quoi. C'est leur rencontre qui leur donne une force.
Cancelli di una fabbrica, vorrei incontrarti lungo le strade che portano in India, vorrei incontrarti ma non so cosa farei, forse di gioia io di colpo piangerei. Statua di quello che io sono adesso. Vorrei conoscerti, ma non so come chiamarti. Vorrei seguirti, ma la gente ti sommerge. Io ti aspettavo quando di fuori pioveva. Stanza era piena di silenzio per te. Thank you.
premier morceau de la soirée, Vorrei incontrarti de l'artiste Alan Sorrenti, l'album Ardia. Nous sommes toujours en compagnie de Juliette Bensimon-Marchina pour nous parler de sa bande dessinée Pas et Polly, publiée par Les Roquins Marteau.
Et j'ai une question donc, que Julie avait préparée pour vous. Elle m'a écrit « Ces femmes sans mollets, mitraillettes à la main, m'ont fait penser au film Boulevard de la mort, notamment au personnage vengeur des Rose McGowan. Est-ce que ça a été une inspiration pour cette bande dessinée ?»
Bah, pas vraiment, en fait. J'avais pas vu le film. Alors oui, après, bien sûr, on a collé des trucs comme ça. Après, bon, pas sur le moment, en tout cas. Voilà ce que je peux dire. Après, j'ai vu le film et tout, donc je comprends, hein, c'est pas des liens. Mais non.
Et est-ce que vous aimez les revenge movies?
J'aime bien certains. Après, je suis pas calée dans un style particulier. Hein. J'aime toutes sortes de films.
Je comprends. Et là, j'ai une deuxième question de Julia. Donc, votre bande dessinée se conclut sur nos ex-tourqueuses qui tournent les dos à leur aspiration de reconnaissance de leur bonne attitude par les hommes. C'était votre projet au départ de conclure sur l'amitié et le girl power, ou la narration s'est construite au fur et à mesure? Mais de toute façon, vous avez déjà répondu un peu. Mais est-ce que c'est cette fin, vous l'avez déjà quand même un peu imaginée au début ou pas?
Non. En fait, pour la fin, à la base, ça devait être dans ma tête un dingue fond.
D'accord.
Elle devait se venger, elle défoncer tout ce qui passait. Et puis, en fait, au fur et à mesure de l'histoire, les personnages... se sont adoucis, et comme je vous disais, en fait, les personnages, ils prennent vie, et puis ils prennent possession de l'histoire, en fait, d'une certaine manière, et puis moi aussi, peut-être, je me suis adoucie, et en fait, ça n'avait plus de sens de finir dans un bain de sang. Ça n'avait pas de sens pour moi, hein, sur le moment, à la fin, elles étaient passées à autre chose, quoi, il y avait un truc, elles étaient plus seules, voilà, donc voilà, j'ai préféré... Ça s'est vraiment présenté ainsi, quoi, que finalement elles devaient tracer leur route et pas chercher à se venger parce que ce qu'elles voyaient là c'était un peu minable de toute manière, donc c'est... Je sais pas si c'est très clair, hein.
Oui, non, complètement. Ouais, en plus je trouve cette scène, effectivement, cette image finale avec Paz et Polly dans la mer par rapport à avant quand elles se retrouvent. Face à cette piscine, je trouve que cette image de la mer, c'est aussi un peu il y a une forme de... on voit une certaine sérénité et aussi une liberté. Je trouve qu'il y a quelque chose...
Oui, vouloir se venger à tout prix. Des fois on a soif de vengeance et puis finalement, quand le moment arrive, on se rend compte que ça n'a plus lieu d'être. Et voilà, elles sont effectivement heureuses, libres...
Et regardant donc vos anciens collages photographiques, j'ai retrouvé certains éléments graphiques présents dans Pas et Polly. Est-ce que vous continuez à expérimenter cette technique des collages photographiques?
Alors là, je ne sais pas de quoi vous parlez.
Alors, il y a une image avec un œil dans une boule et avec des pics extérieurs. Et je l'ai trouvé aussi dans... j'ai cherché des informations sur vous sur Internet et je suis arrivée sur un ancien compte Flickr. Et là, il y avait des images. Donc, vous avez mis des collages photographiques. Et il y a aussi cette image avec cet œil à l'intérieur d'une boule avec des épines. Je trouvais ça hyper beau. Et je l'ai retrouvé aussi dans la bande dessinée. Est-ce que vous continuez à faire ces collages photographiques ou vous avez arrêté?
Non. C'est vrai que là, mon travail est vraiment... vraiment centré sur l'illustration de presse, BD. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'aimerais avoir plus de temps et me trouver des petites respirations comme ça et changer de médium et changer de... Mais non, là, en ce moment, non, c'est... j'ai complètement laissé tomber ça. Là, c'était des trucs que je faisais au Beaux-Arts, par exemple.
D'accord.
Je pense, hein. Si je vois de quoi vous parlez.
Et par rapport à la couleur, Pazé Poli est noir et blanc, sauf la couverture. Quel est votre rapport à la couleur?
En fait, avant, je dessinais tout en couleur. Et puis, quand j'ai commencé vraiment à dessiner en noir et blanc avec la Caïda et Coyota, parce que, pour une raison très simple, c'est que cette BD, je l'ai faite ne connaissant aucune maison d'édition. Et donc, du coup, je me disais, au pire, si je trouve personne pour la publier, moi, je l'auto-publierai. Et donc, forcément, imprimer du noir et blanc, c'est moins cher qu'imprimer de la couleur.
Mmh.
Et donc, du coup, je m'étais dit que je le faisais en noir et blanc. Et puis, du coup, ça m'a vraiment plu graphiquement. J'ai développé vraiment le noir et blanc. Ma manière de travailler le noir et blanc s'est vraiment développée avec la Caïda et Coyota. Et donc, pas épaulé, c'était logique de le faire aussi en noir et blanc. J'avais encore envie d'expérimenter ça, quoi, de pousser un peu les contrastes et voilà, ce vocabulaire esthétique. Mais là, en ce moment, par exemple, je bosse en couleur. C'est pour des petites illustrations de presse. Hein.
D'accord. Et par exemple,
à la base, c'était pour une raison financière, quoi. Enfin,
et donc, ces noirs et blancs, vous l'obtenez avec quoi? C'est de l'encre des chiens? D'accord.
Ouais.
Et par rapport... Pardon?
Oui, exactement.
Et maintenant, vous êtes en train de travailler une couleur pour ces illustrations des presses. Et vous travaillez avec quoi en particulier? Avec quels instruments?
Voilà. Avec Photoshop, en fait. Je mets les couleurs sur Photoshop.
D'accord. Donc, vous faites avant les dessins à l'encre des chines, et après, vous ajoutez les couleurs, c'est ça? D'accord.
Ouais.
Et j'ai une question par rapport... moi, en lisant Paz et Poli, je l'ai trouvé très cinématographique. Est-ce que vous avez pensé à l'adapter au cinéma?
Alors non, pour des raisons financières. Si quelqu'un me propose, je serais ravie de dire oui. Car, en fait, c'est drôle que vous me disiez ça, parce que quand je réfléchis à une scène, par exemple, pour la découper, j'ai vraiment l'impression d'avoir une caméra et de faire arrêt sur image, tac, tac, tac. Donc le cinéma, pour moi, est très présent dans le processus du découpage et des cases, en fait. Donc ça m'étonne. Enfin, ça me fait plaisir que vous disiez ça, parce que c'est vraiment présent pour moi. Mais non, je n'ai pas tenté à faire ça parce que c'est pas mon métier et que... Après, si quelqu'un est chaud pour le faire, moi, je suis très contente.
Et maintenant, je voudrais passer aux questions qui concernent donc votre art, votre vie d'artiste, mais en confinement. Parce que j'imagine que vous aussi, vous êtes confiné comme beaucoup de millions de personnes dans le monde actuellement. Est-ce que ça va pour vous, le confinement? Est-ce que vous, comme artiste, comme autrice de bande dessinée, ça va, les confinements? Est-ce que vous arrivez à créer malgré le confinement?
En fait, le confinement, c'est un peu ma vie habituelle, hein. Enfin, avec le danger en moins. Mais je veux dire, je suis tout le temps chez moi. Moi, je bosse chez moi, donc je suis tout le temps chez moi. Ça change pas vraiment. Ça change pas. Quand je communique avec, ma maison d'édition, c'est toujours via Internet, par mail. Donc, professionnellement, j'ai peu de contacts directs avec des gens. Donc, en fait, ça change rien. Et je travaille, je travaille autant que d'habitude, ça ne me bloque pas.
Et j'ai une dernière question, juste pour terminer, je voudrais savoir si vous avez d'autres projets en chantier, si vous pourriez me dire quelque chose.
Là, pour l'instant, je n'ai pas commencé de nouvelles bandes dessinées.
Mm-hmm.
J'ai un scénario qui est prêt. Après, j'avoue que quand je finis une bande dessinée, c'est tellement long et tout que j'ai toujours j'ai besoin de respirer un peu et donc du coup de faire plus des choses, d'être sur des projets plus courts, quoi, plus rapides à finir, parce que c'est quand même long, c'est quand même un travail solitaire et long. Et donc du coup là où je me laisse encore un petit peu de temps, j'ai pas vraiment de...
Et par rapport effectivement à cette idée de durée, l'effet d'écrire une bande dessinée, c'est très long, de la faire et tout ça. Par exemple, pour Paz et Poli, ça vous a pris combien de temps? du début jusqu'à la fin?
Alors, ça m'a pris, je dirais, sur 3 ans, parce que bon, bah, il y a la vie aussi, hein, qui fait que je viens de Paris, j'ai emménagé en Belgique, j'ai eu beaucoup de chamboulements dans ma vie, qui fait qu'il y a eu des gros moments de ralenti sur le projet, où je bossais moins. Mais, vous voyez, 3 ans avec des mois de vide.
Et quand vous commencez une bande dessinée, vous êtes, par exemple, Paz et Poli, vous étiez sûre de la terminer ou pas? Je suis toujours très fascinée par le fait que les auteurs, ils arrivent à tenir un projet sur la durée aussi longtemps. Est-ce que vous avez eu des doutes pendant ces processus ou pas? Ou vous n'avez jamais douté des faits de terminer cette bande dessinée?
Non, pour les deux bandes dessinées que j'ai faites, c'est une évidence de la terminer, en fait, parce que vraiment, je sais pas, c'est peut-être un peu étrange à dire, mais on s'attache vraiment au personnage et on a envie, en fait, qu'elles finissent leur aventure, qu'elles vivent leur expérience jusqu'au bout, et ce serait un peu naze de les laisser tomber d'une certaine manière, et même si c'est dur, et même si, comme je dis, il y a des mois entiers ou plusieurs mois où j'ai pas touché un crayon, mais je savais que j'allais y retourner parce que je les aimais beaucoup et que j'aime faire ça aussi.
Merci beaucoup, Juliette Bensimon-Marquina, pour cette interview.
Lasciate che io dorma questo sonno, sia tranquillo da bambino, sia che puzzi del russare da ubriaco.
deuxième morceau de la soirée, Non mi rompete, del Banco del Mutuo Soccorso. Et maintenant, c'est le moment de l'actualité BD. Ce soir, on va vous parler des Alma, des Tarmas, du meilleur dessinateur de tous les temps, l'autobiographie des Chariots Spiral, et nous terminerons avec Sabordage des Pluies Acides. Mais on commence avec la chronique de Nandi sur Alma des Tarmas. On t'écoute, Nandi.
Alma est une œuvre de la dessinatrice Tarmaz. On devait déjà à Tarmaz Voyage en République de Crabe, journal d'une livraison en pays ubuesque. Mais ici, Alma et ses 11 histoires et légendes est un véritable livre-objet, confectionné, grimoire des temps modernes, graphiquement fascinatoire, parfois donnant la sensation d'être indéchiffrable en sens, quoique... Alma est publiée en octobre 2019 et on doit cette publication aux éditions Même Pas Mal, dont nous aborderons dans cette émission différentes publications. Et pour cause, ces éditions ont leurs pattes. Elles se disent avoir germé, telles de mauvaises herbes, sur le sol de la crasseuse et chatoyante ville de Marseille, avoir essaimé à travers le monde des bandes dessinées sauvages, belles et revêches, résistantes aux traitements sanitaires les plus virulents. Libres et tenaces, les éditions Même Pas Mal sont là pour durer, nous disent-ils. À ce jour, nous comptons 51 parutions de livres et livres-objets en tout genre et aussi styles vifs et variés. De plus, sur leur site, la mise en scène de ces auteurs est franchement pas mal, avec force interview et lien vers leur œuvre. Merci. Ces éditions appartiennent aussi, last but not least, au syndicat des éditeurs alternatifs, SEA, loin d'un formatage littéraire et visuel, promouvant l'émergence de nouvelles formes et pensées et prônant la singularité. Bref, un beau programme pour le SEA via les éditions Même Pas Mal. Cette singularité tarabuste comme une évidence chez Tarmaz. Tout d'abord, retour sur l'artiste. Des influences ? Mike Magnola, David B., pseudo de Pierre-François Bochard, Sergio Topi, Carson Ellis, Keith Negley, mais aussi un intérêt suivi pour Ars Factory, rue Charonne, que nous aimons bien par ici, proposant des BD et objets alternatifs qui vous rendront toute sémillante d'étrangeté fort bien fichue. Bref, passons à la femme en elle-même. Tarmaz propose une production variée, mais non sans cohérence. Ainsi, venez, braves gens, observez comment vous observeront les 22 arcanes d'un tarot de Marseille par Tarmaz. Observez des observés, tels que Paul Auster ou Harry Potter, pleine page par Tarmaz. Arborez les broderies de Tarmaz, reprenant son art dessiné. Constatez les accoutrements qu'il se crée, Tarmaz. Et après toutes ces incrustations, en ésotérisme, en visage d'homme, en textile à l'aiguille, c'est votre peau que vous pourriez risquer avec elle, et pour cause, Tarmaz est tatoueuse et nous vous invitons fiévreusement à jeter un coup d'œil sur son site. Bref, avec Alma, programme. Donc, blablabla, le confinement, blablabla, on sort plus. Alors sortez en vous et dans vos mythologies brouillonnes qui élaborent vos esprits et qui meuvent vos chairs. C'est parti. Égarons-nous avec Cam ou Alma si on préfère. Tout d'abord, on constatera en couverture le titre, comme mouvant au centre de peinture qui rappelle les fresques des rêves aborigènes, animaux, formes symboliques et florales. C'est alors, couvrant le livre, une double page est consacrée à des masques humains, de femmes marquées, piment aux oreilles, aux tons variés dans des déclinaisons de rouge, une recension étrange dont le sens ne pourra nous survoler que plus tard. Puis, la première de couve, le titre Alma, et cet œil roulant et fatal. L'Alma, l'âme, devient un regard particulièrement hantant en un œil. L'âme hante. Autant dire que le graphisme avait déjà beaucoup plu, mais cet aspect figuratif et cependant non explicité laisse tendu et torve. Le regard se surprend à pencher lui aussi et dans un monde. Alors démarre Alma et ses 11 histoires de l'âme. Nous voici dans le désert d'Asmal. Y vivent et voltent des mythes à flanc de sable, de chair et de vent. Ceux de femmes, d'hommes vagabonds ou sédentaires, ceux d'une femme peut-être, Alma. On nous dira, au début, le monde était partagé en trois. Les côtes pour les hommes et les bêtes, la mer profonde pour les génies et les monstres, et le grand désert pour les démons et les spectres. Avec le temps, les génies sont sortis de l'eau, les humains ont marché sur le désert, et les démons sont entrés dans les villes. Alors, il y a eu la guerre, et puis le monde a trouvé un équilibre différent. Alma y trône et veille. Des planches BDesques, nous voilà alors en pleine page, avec une alliance mythologique entre deux entités, et paf, on tombe en cosmologie, deux doubles pages, des caractéristiques d'icônes, des perspectives faussées pour faire mouche, et mettre quasiment en premier plan des êtres symboliques forts. Médiéval, renaissant, on s'en fout, un folklore à soi. Pourquoi ? Parce que formellement, nous cheminons dans des paysages où les rondins de bois ont des gueules d'aorte, mais même pas mal, comme dirait la maison d'édition. Dans des paysages presque de chair en aplat, courbes et nuances de rouge et de gris, et avec des personnages qui portent une figure assez particulière. Des dialogues ? Oui. Plutôt des conversations, une voix off entêtante, des sphinges ou sphinx qui font « caille, caille », des paffs, des incantations, des tireuses d'eau de tout temps, des fichues histoires pour écarter les femmes des femmes, des gens qui veillent, des proférations, des « tu n'enfanteras que des bêtes sauvages », des conteuses et des paffs et des cailles encore. Mais Alma Yaya, comme on nous dit, ne la prenez pas pour une simple sorcière, elle est la plus puissante qui soit. De toutes les femmes, elle sera la dernière. Au diable lui-même, elle survivra, Alma Yaya. En lecture, ces histoires se suivent ou se scandent entre elles. La linéarité n'est pas nécessaire. Il y a des échos de l'âme partout. Tantôt Maladena, Alma, Alma Yaya, Magdalena, et après. Je dois dire que j'ai été acquise. Ah, j'aime ce boulot et ce culot qui restaure pour soi des mythologies assénées. C'est un fort intérieur, dans sa peau, que nous propose Tarmaz. Merci Tarmaz, et merci à l'Alma. Car il y a, par ici, des mythes en peau et des mythes en âme, des forclos frôlant la conscience, des mythes en peau. Si, comme le disait le poète Valéry, ce qu'il y a de plus profond chez l'homme, c'est la peau, alors ces épaisses couches de sensations et croyances qui nous survolent, ancrées sur chair, sont saisies à même la page. Donc, Tarmaz, dessinatrice et tatoueuse, oui, ce qu'il y a de plus profond chez nous autres, parfois, c'est la peau. Et on en est ravis.
Merci pour cette chronique, Nandi. On poursuit avec Sabordage des plus acides. Cette fois, c'est Michel Carton. On t'écoute, Michel. Alors,
oui, effectivement, j'ai lu Camilla, Sabordage, donc dessiné par Plus Acide, de son vrai nom Morgane Garante. Alors, vous pouvez voir son travail sur le site, son site Blogspot, hein, garantemorgane.blogspot.com. Et dont le sous-titre est « Bande dessinée alternative, violence et romance », qui résume d'ailleurs assez bien ce que je vais vous présenter. Essentiellement, vous y trouverez aussi sur ce site des BD de quelques pages qui vous donnent un bon aperçu du boulot. Et il y a pas mal de choses, donc allez-y. Donc Sabordage est publié, ça c'est une édition papier, hein, publiée aux éditions même pas mal. Une maison d'édition située à Marseille, dont on a déjà parlé, qui publie plein de choses intéressantes. Alors par exemple, il y avait « Je n'ai pas de projet professionnel » de David Snug, « Mouette Mouette » de Madé, ou « Caca raté » ou « Grotesque » d'Olivier Texier. Bon, il y a encore d'autres choses. Alors, pour revenir à Sabordage, donc c'est une BD de 148 pages en noir et blanc, dans un style qui est, je dirais, dans un style vraiment purement fanzine punk. Déjà parce que nous sommes dans un univers de science-fiction, au 25e siècle pour être précis, avec des vaisseaux spatiaux voyageant à la vitesse de la lumière qui permettent de faire un Pluton-Terre en une heure environ. Comme dans Star Wars, les espèces intelligentes se côtoient dans les bars, les rues, sur différentes planètes, elles peuvent être potes ou pas. Autant dire que c'est l'univers naturel de la BD punkoïde et sarcastique, dans lequel Plus Acide s'amuse à croquer des reptiliens, des mutants, des robots ou autres bestioles variées. Tous ces êtres ont des faciès plutôt rigolos, même quand ils sont supposés être méchants. Le dessin aussi donc, est très punk, hein, tout semble avoir été croqué un peu rapidement, directement, sans préparatif, mais ça c'est vraiment qu'une illusion à mon avis. Déjà, je ne sais pas si c'est vrai ce que je viens de dire, ça se trouve ça a été d'abord un crayonné, etc. Mais ensuite de ça, si vous regardez bien les dessins, vous avez des décors assez riches dans certaines bulles, et ça donne une véritable épaisseur graphique à l'ensemble. Donc vous y trouverez comme ça des effets de perspective, de plongée dans certains décors, où bien souvent vous avez plusieurs plans de personnages. Et c'est quand même bien fait, parce que globalement, même si c'est du noir et blanc, et qu'il y a quand même pas mal de traits, eh bien, la densité des planches n'altère pas la lisibilité. C'est pas un fouillis, c'est agréable. Alors l'autre truc qui est assez punk, c'est la dynamique. Vous avez des gestes radicaux, rapides, violents, et puis des expressions, des visages qui peuvent se métamorphoser sous l'effet de sentiments exacerbés, hein, en plus des larmes, et puis des rires énormes, ou des regards méchants, quand il y en a. Bref, en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que ça a un effet très punk, ça l'est, mais c'est globalement très bien fait au niveau du dessin. Alors, l'histoire maintenant, pour entrer dans le vif du sujet de l'histoire, eh bien, c'est celle de deux pirates, des pirates évidemment interstellaires. Donc, Maurice, un jeune reptilien qui ressemble en gros à une grenouille, et qui a décidé de suivre Monique, qui elle est une jeune femme blonde, rebelle, fille de bonne famille en fait, ça on l'apprend au bout d'un moment dans la BD, qui donc s'est lancée dans la piraterie. Alors là vous avez encore un aperçu de ce ton un peu sarcastique, punk, avec les choix des prénoms, Monique et Maurice. Alors, ces deux-là sont embarqués dans une quête, celle de retrouver le trésor du vieux Bill, dont on ne connaît pas vraiment la nature, ni même s'il existe vraiment. Mais ça, disons que c'est l'histoire de fond, ou c'est le prétexte pour raconter d'autres choses, même si l'histoire, évidemment, va suivre son cours. En fait, cette histoire semble évoluer en dehors du contexte principal, enfin, la BD plutôt, semble évoluer en dehors du contexte principal, et passe d'une scénette à l'autre. Monique par exemple rencontre Maurice dans le premier épisode, et puis ensuite vous avez Monique qui raconte son ancienne vie bourgeoise à Maurice, ensuite vous avez Maurice et Monique qui participent à une soirée déguisée, ensuite qui mène l'enquête, enfin, bref je pourrais vous énumérer toute la liste comme ça, mais je vous laisserai découvrir par vous-même. Alors finalement ça ressemble donc à ces films à sketch, on entend par là les films, je ne sais pas si vous connaissez, du type Les Monstres, I Mostri en italien, un film de Dino Risi que je vous conseille, je fais une petite digression là-dessus, qui m'a fait découvrir la base de cinéma italien, donc c'est vraiment très intéressant. Et bref, clairement ici, le but, comme dans ces films à sketch, c'est d'obtenir du bizarre et de l'humour. Il y a peut-être aussi quelques résonances politisantes. Par exemple, on apprend que la famille bourgeoise de Monique a conclu un pacte avec les reptiliens pour être épargnés lors de leur attaque contre la Terre, ce qui leur a permis de se réfugier dans une cave. Donc, il faut peut-être y voir un message. Tout ça, globalement, ne m'a pas systématiquement convaincu, il faut bien le dire, mais il y a vraiment des scènes marrantes. Et il y en a même une qui est un peu qui est entre le marrant et l'horrible, et que j'ai trouvé vraiment super bien. Et donc rien que pour cette scène, je vous conseillerais la lecture de cet abordage. Il y a aussi un autre aspect qui m'a plu, c'est que en la lisant, au bout d'un moment, je me demandais comment le périple là, globalement interstellaire, allait se terminer. Et j'étais assez inquiet pour tout dire. Et puis en fait, c'est pas mal du tout. Il y a une petite portée métaphysique sympatoche à la fin. Et finalement, donc, j'adhère à la fin. Elle n'est pas totalement surprenante, mais elle est un petit peu quand même. C'est sans prétention, mais c'est pas mal du tout. Voilà, je vous remercie. Et donc, lisez cet abordage.
Et nous terminons ce soir avec la chronique du réalisateur. La chronique de Pierre Paul. Pour la bande dessinée Les meilleurs dessinateurs de tous les temps, l'autobiographie des chariots spirales. Pierre Paul, on t'écoute.
C'est une naissance, celle du plus grand dessinateur du monde, l'auteur, tout simplement. Ses capacités incroyables amènent le commun des mortels à lui accorder n'importe quoi, médecin, maîtresse d'école, grand ponte, de l'édition, tous voient l'incroyable talent du dessinateur. Ils sont séduits. Mais ça, dès sa naissance, on le voit tout de suite qu'on est impressionné par sa musculature, par sa taille, par son regard. Il va donc faire pourquoi il est né. Il va créer la meilleure BD de tous les temps. Et il va casser Angoulême. Voilà, oui, il faut savoir, Angoulême n'existe plus. Il y a une vision. Il a la vision de notre futur, pas seulement. Et il a un pouvoir hors du commun pour un humain. Il va donc dépasser sa condition pour devenir autre. Bien sûr, dans le cauchemar pastel, dans un premier temps, en fait, les couleurs nous attaquent. Il y a son trait, là, qui s'enroule autour de nous et qui bave un suc étrange. Pendant la lecture, j'ai vécu un moment dérangeant. Et j'avais absolument besoin que ça se termine. Je pouvais pas m'arrêter. Peut-être simplement parce que si je m'arrête, je n'aurai pas la force de m'y remettre. Il y a une vibration lorsque je lis Le meilleur dessinateur de tous les temps. Une sorte de passage dans plusieurs mondes où je n'ai aucune maîtrise, car ce n'est simplement pas ma réalité. Je passe à côté de plusieurs références que je ne comprends absolument pas. Est-ce que c'est du Sangoen dans le texte? Pourquoi Michel Despêches? Que fait Ayam ici? Et pourquoi il pond un œuf? Enfin bref. On est dans la lignée de Harg, du Pulp, et finalement de Doggy Bag. On est dans la blague et le trash. On est dans l'art black trash. Je sais pas trop quoi en penser, en fait. Mais à vrai dire, je m'en fous de ce que je pense, parce que ça marche. Il y a des gens qui s'éclatent à créer, et il y en a d'autres qui délirent à le lire. Alors c'est complètement dégueulasse, mais pas inintéressant. Après, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Est-ce qu'il faut forcément faire une chronique dessus? Le meilleur dessinateur de tous les temps, donc, édition même pas mal, c'est sorti le 8 novembre 2019. Et ça a été dessiné et scénarisé par Chariot Spiral. Ok, c'est qui Chariot Spiral? Alors, j'ai réussi, en cherchant un peu, à trouver sa tête sur les internets, et je peux vous dire qu'il est belge. Bon. Mais en fait, je suis même pas sûr, parce que j'ai trouvé une tête, et puis j'ai trouvé une autre tête après, sur un autre site. Donc au bout d'un moment, je suis un peu perdu. Peut-être en Belgique, peut-être à Paris, peut-être entre les deux. Mais je vois bien, en fait, le délire entre les deux. J'ai vu son nom apparaître à côté de Ketsumi dans un hors-série Dolly Bag. On voit la violence décomplexée, le trash. Et je retrouve bien notre homme. Désolé, je suis en train de le lire, là, enfin le feuilleter en même temps pour voir l'impression que ça me fait, en fait. En 2017, il participe en tant que dessinateur au manga Earthbreaker. En 2018, il semble être rentré au cœur de Glory Hole. Glory Hole, c'est le strip humoristique en trois cases. Le truc un peu glauque, voire souvent glauque, mais sympathique. J'en parle parce qu'on remarque, en fait, dans les remerciements du meilleur dessinateur de tous les temps, que les dessinateurs de Glory Hole ont quand même une place assez importante. Bref, revenons sur le meilleur dessinateur. À première vue, je n'aime pas. J'aime pas, hein, je l'ai dit, c'est un monde qui m'est étranger. Voilà. Mais je vous redis encore une fois, on s'en fout, hein, c'est juste ma vision. Par contre, si je peux ne pas le relire, bah, je vous invite à le prendre. Et c'est peut-être vicieux de ma part, mais j'ai pas du tout envie d'être seul à vivre ce passage dérangeant. Je m'arrête là. Voilà.
Donc tout ça, ça me semble assez intéressant. Vous pouvez aller voir sur les sites des éditions Même Pas Mal, où vous trouverez l'accès à ces trois bandes dessinées. Comme ça, vous n'avez pas besoin de commander en ces temps de confinement. Cette émission a été préparée et présentée par Camilla Pizzichillo, avec la complicité de Julia Legrand, Nandi Djikalou, Pierre Paulsens et Michel Carton. A très bientôt sur Radio Campus Paris. Bon confinement, bonne soirée à toutes et à tous. Bisous.